Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. Ça va faire mal, Tim Cook a prévenu, les tarifs des produits Apple vont augmenter. En cause, l'explosion du prix de la mémoire vive depuis que la course à l'intelligence artificielle est lancée. Si Apple était parvenu à contenir cette flambée, une hausse est maintenant inévitable selon Tim Cook. Alors à quoi faut-il s'attendre exactement? On va en discuter avec Christophe. Dans cette émission, on va également aborder le destin de l'Apple Watch Ultra de première génération, l'avenir flou de l'iPad et les noms de macOS qui semblent tomber en désuétude. Nous sommes le samedi 20 juin, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. La Coupe du Monde de foot a commencé. Apple ne pouvait évidemment pas passer à côté de l'événement. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a envoyé une notification à tous les utilisateurs d'Apple Invitation pour les inciter à utiliser l'application. Salut Christophe, ça va?
Bonjour Stéphane, oui ça va très bien et toi?
Ça va bien, ouais. Alors as-tu utilisé l'application Invitation pour organiser une soirée foot?
Ah non, mais là où je vis, il n'y a que WhatsApp. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi, au lieu de chercher à payer des abonnements pour enlever la publicité d'autres choses, pourquoi Mark Zuckerberg n'essaie pas de faire de WhatsApp une sorte de super app, comme on dit, parce que je crois qu'il y a un véritable marché. Et quand je vois la popularité de cette application, notamment en Allemagne, où moi-même, j'ai même mes fils là qui ont créé un groupe, ils n'ont pas l'idée de créer un groupe sur message, ils utilisent directement WhatsApp. Donc tu vois, c'est... Pas d'Apple Invitation, donc. Par contre, je voudrais juste revenir sur deux, trois trucs. Tu vois, la semaine dernière, on avait beaucoup parlé de cette histoire de Siri et d'Europe.
Ouais.
Donc, 24 heures après, on a eu toute cette histoire d'Anthropic aux États-Unis avec ces histoires de nouveaux modèles. Alors... Attention, hein, comparaison n'est pas du tout raison, mais j'ai quand même l'impression qu'on se trompe de bataille quand même dans cette affaire, enfin, si je me place côté européen.
Alors pour rappeler, donc c'est Anthropic qui a lancé un nouveau modèle, et puis après l'administration américaine lui a demandé de ne pas le mettre à disposition des utilisateurs européens. Ouais. Et donc Anthropic après a carrément retiré son modèle.
Voilà. Ouais, donc voilà, c'est toute une histoire et je pense qu'il va falloir revenir dessus. Et alors, puisqu'on parle de DMA d'ailleurs et de ce genre de choses, moi je trouve que très intéressant par contre ce qui s'est passé une fois, n'est pas coutume, en Italie, où ils commencent à s'intéresser à quelque part, à l'exclusivité de la sauvegarde iCloud sur l'iPhone. Bah, je trouve ça très intéressant, surtout dans le contexte actuel, parce que finalement... tu sais pas où sont précisément, par exemple, sauvegardées tes données par Apple. Donc.
Mais c'est vrai que Apple doit ouvrir des choses par rapport à ça. Alors pas la sauvegarde en tant que telle, mais par exemple normalement maintenant les applications photos tierces peuvent importer les photos à l'arrière-plan. C'est un truc qui est pas encore implémenté par beaucoup d'applications, mais qui est en train de venir. Et ça va faciliter un peu les applications comme Google Photos pourront sauvegarder plus facilement toutes les photos qui sont sur l'iPhone, quoi.
Voilà. Et sinon, la grande nouvelle de la semaine, enfin en tout cas pour moi, c'est que FreePro gère enfin l'eSIM. Donc c'était un petit peu, tu vois, l'argument pour qui me disait non, mais c'est pas la peine de prendre un iPhone Air. Donc voilà, voilà. Ça commence maintenant, surtout avec tes promotions, ça commence un petit peu à chauffer. Bon, bah bref, c'était le résumé de la semaine pour moi.
C'était ton
salut
résumé,
les amis,
okay.
À la semaine prochaine.
Ton petit programme perso. Alors, si tu le veux bien, moi j'ai un autre programme. Et puis, je pense que le sujet est assez important, hein, puisqu'on va parler de l'annonce de Tim Cook dans le Wall Street Journal, à savoir que les prix des produits Apple vont augmenter. Alors, la raison est assez évidente, c'est à cause de l'explosion du prix de la mémoire vive, notamment. Depuis l'année dernière, les fabricants de mémoire privilégient les commandes pour les data centers dédiés à l'IA. Il ne reste donc plus que des miettes pour le reste, et ça fait flamber les prix. Alors jusque-là, les clients d'Apple avaient été plutôt épargnés. Apple a bien retiré le Mac Mini d'entrée de gamme et rehaussé un peu les prix des MacBook Pro, mais rien de comparable avec d'autres marques jusque-là. Mais voilà, une augmentation est maintenant décrite comme inévitable par Tim Cook. Alors à quoi faut-il s'attendre exactement, Christophe ?
Enfin, on va se retrouver entre nous. Il y avait trop de switchers. C'est trop facile de passer sur Mac en achetant un Mac à 600 euros, 500 ouais. euros même. Ça n'est plus là. Rien. Merci à l'IA de remettre les choses en ordre. Non, mais là, beaucoup plus sérieusement. Oui, c'est quand même intéressant cette déclaration de Tim Cook parce que bah, quelque part, il prépare le terrain. C'est quand même pas fréquent qu'un patron prenne la parole et qu'il dise « Attention, les prix, ça va bientôt piquer ». Mais d'ailleurs, il y avait cette déclaration très intéressante du patron de Nothing, Carl Pei, qui disait que bah, le meilleur moment pour changer de smartphone, c'était hier. Donc, je crois que ça résume assez bien la situation. Alors, ce qui est certain, c'est que si Tim Cook prend la parole pour évoquer le sujet, c'est pas parce que les iPhone 18 Pro coûteront 50 ou 100 euros de plus. Ou alors, ça serait vraiment hasardeux comme stratégie. Je suis pas sûr qu'on le prendrait vraiment au sérieux parce que bon, je veux dire, nous, on l'a, surtout, nous, les, comment dire, consommateurs européens, on l'a souvent expérimenté, notamment au gré des fluctuations de l'euro-dollar. Voilà, il arrive de temps en temps qu'une génération, une nouvelle génération coûte 50 ou 100 euros plus cher ou moins cher, ça dépend. Donc là, bah, on peut penser que ça va être du costaud, puis bah, ça n'a pas manqué. Il y a déjà eu des analyses de coûts de composants à l'instant T, sachant qu'on sait à peu près la quantité de stockage et de RAM que devrait avoir l'iPhone 18 Pro. Et donc, voilà, bah, il y a déjà des scénarios. Les plus optimistes tablent sur un iPhone 18 Pro à 1299 $, les plus pessimistes à 1399 $, donc ça ferait une augmentation de 200 à 300 $ par rapport au modèle actuel. Sachant que pour nous, j'en parlais, a priori, il ne faut pas espérer un quelconque amortisseur en Europe. Hein. Voilà, l'euro-dollar n'a pas énormément bougé par rapport à l'année dernière, en tout cas pas de manière suffisante pour espérer quoi que ce soit pour le consommateur.
Et si je prends juste les prix en euros, là, l'iPhone 17 Pro, il est à 1329 €, donc en gros, on peut s'attendre à plus de 1500 €, quoi.
Facilement, ouais. C'est ça que ça fait peur. Ouais. Alors on peut espérer malgré tout qu'il y aura, on va dire, une guerre des prix qui fait qu'on pourra toujours espérer d'avoir le nouvel iPhone au bout de quelques mois avec 100 ou 150 euros de remise, mais faut pas compter plus. Et puis bah ça pose effectivement des questions d'arbitrage. Alors j'en rigolais avec l'iPhone Air. Moi c'est un téléphone qui me plaît bien, mais je trouve qu'il a pour l'instant des défauts qui sont trop rédhibitoires et ça vaut pas le coup par rapport à l'iPhone que j'ai actuellement. Mais malgré tout là tu te dis attends, je peux avoir un super iPhone Air à 512 Go pour 959 €, d'accord, voilà. Mon idée c'est quand même d'attendre l'iPhone Air 2 par exemple. Alors si ça se trouve, il devrait sortir donc a priori au printemps de l'année prochaine. Il n'y a pas de raison que son prix n'augmente pas, sachant que là l'iPhone Air 2 512 Go, c'est quasiment une réduction de 500 € sur son prix normal. Donc si j'attends pour avoir entre guillemets un iPhone Air 2 qui correspond à mon cahier des charges, il faudrait que je paie 500 € de plus et finalement je ne sais pas si ça vaut le coup de l'acheter par rapport au prix où il sera proposé. Le discours de Tim Cook, il arrive à un moment où c'est assez difficile de se rendre compte de tout ça. Enfin, je ne sais pas, tu l'as vu comme moi. On a vu cet iPhone Air à 900 €. On a vu le MacBook Neo passer pendant quelques heures sous les 600 €, donc soit 100 € de réduction sur son prix normal. On a l'impression qu'à un moment donné, la fin de la récré va être sifflée, mais on ne sait pas quand exactement. Et donc voilà, c'est toute la difficulté de faire des arbitrages. Est-ce qu'il faut acheter un petit peu en avance? Est-ce qu'il faut attendre malgré tout? Est-ce qu'il faut jouer les cartes soit des promos, soit du reconditionné? J'en sais rien, mais c'est une drôle de période en tout cas.
Faut dire qu'en ce moment, en plus, les promos sont accentués par le fait que c'est le Prime Day d'Amazon. Alors officiellement, ça commence la semaine prochaine, mais en fait, il y a déjà plein de promos depuis cette semaine. Et il y a vraiment des prix très intéressants. Tu l'as dit sur le MacBook Neo qui est passé à moins de 600 € pendant quelques temps. Les iPhone 17 Pro sont eux aussi en promo. Donc effectivement, il y a un grand décalage entre cette annonce de Tim Cook et puis ce qu'on voit actuellement dans les boutiques tierces. Ouais.
C'est ça, Amazon en plus a voulu jouer beaucoup la carte de la fête des pères cette année, et puis bah, tu as les soldes qui doivent commencer aussi d'ici quelques jours, donc pendant quelques jours encore il va y avoir je pense des offres commerciales qui vont être très agressives, mais après derrière, et après ce qui serait intéressant de voir c'est comment parce que je pense que malgré tout, Apple a une ou deux cartes dans son jeu. Enfin, Tim Cook avait laissé entendre, oui, c'est un problème préoccupant, mais on a quand même deux ou trois leviers qui nous permettent de... Est-ce qu'on aura des offres conjointes ou je ne sais quoi? Mais ouais, ça sera quelque chose de très intéressant à suivre en tout cas.
Maintenant, on va revenir sur l'une des nouvelles de la WWDC qui a fait le plus polémique. Je parle bien sûr de l'Apple Watch Ultra de première génération qui n'aura pas droit à WatchOS 27. Alors, pour remettre les choses dans le contexte, l'Apple Watch Ultra est sortie en septembre 2022 sous WatchOS 9. Elle est ensuite passée à WatchOS 10, 11 et 26 et elle va donc s'arrêter là. Ça ne fera donc que 3 mises à jour majeures, soit autant que la série 0. Est-ce qu'Apple a des excuses ou on peut vraiment crier au scandale là ?
Ah, c'est difficile. Alors, on a regardé ce qui se faisait notamment dans le monde des montres sportives. Et enfin, ton exemple le montre très bien, parce que quand tu parles de l'Apple Watch série 0, on est dans la moyenne basse de ce qu'Apple a coutume de faire, et de manière générale, les bons élèves. Normalement, ils font avec Apple, lorsqu'il s'agit d'une Apple Watch, on a tendance à avoir des mises à jour de WatchOS pendant un an de plus, deux ans, si on est vraiment chanceux. Mmh. Le souci, en plus, par rapport à ça, si on compare par rapport à la concurrence, c'est que je suis tenté de dire que l'Apple Watch a une mise à jour logicielle par an. C'est peut-être ça le truc le plus gênant. C'est-à-dire qu'il y a la mise à jour de septembre qui t'apporte de réelles nouveautés. Et puis après, autant macOS et iOS ont quand même des nouveautés assez intéressantes tout au long de l'année, autant sur WatchOS, ça se résume à une mise à jour, il y a un cadran, une mise à jour, il n'y a rien, une mise à jour, elle bénéficie d'autres améliorations des autres OS d'Apple, mais les nouveautés spécifiques sont assez rares, et c'est sans doute ça qui est dommage dans le développement du système d'Apple. Alors, par rapport à tout ça, il y a quand même deux choses pénibles. C'est-à-dire qu'ils coupent la prise en charge de l'Apple Watch Ultra 1 dans WatchOS 27. Et puis, quand tu vois les nouveautés, enfin les changements de WatchOS 27, tu dis, je veux dire, une personne qui est sur WatchOS 26, elle ne va pas être foncièrement jalouse des nouveautés de WatchOS 27. Hein, c'est quand même, les modifications sont très très légères. Et puis bon, en même temps, enfin, on voit très bien ce qu'Apple veut faire. Hein. L'idée, dans les années à venir, c'est d'avoir, entre guillemets, une plateforme d'Apple Watch qui gère l'intelligence artificielle en local. Et donc, je pense qu'Apple va vouloir exploiter au maximum le NPU dans les prochaines mises à jour de WatchOS.
Alors, il y avait déjà un NPU hein, sur l'Apple Watch Ultra de première génération. C'est juste que, entre guillemets, le NPU de la puce S9, donc qui a été intégré dans l'Apple Watch Ultra 2, est deux fois plus puissant. Donc,
celui de l'Apple Watch, ouais. Il est quand même extrêmement limité. Enfin, je veux dire. Et il y a un truc, par exemple, justement, ce qui permettait dans l'Apple Watch Ultra 2, c'est un petit changement, ça avait l'air de rien, mais c'est le fait que la reconnaissance vocale se fait en local. Je peux t'assurer que lorsque tu as les deux Apple Watch, tu vois la différence, même lorsque tu as un excellent réseau. Et donc, je pense qu'ils ont un cahier des charges et ils se sont dit que le NPU de la première Apple Watch est beaucoup trop faiblard pour faire quoi que ce soit. Puis, alors, ce qui est en plus complètement... un peu frustrant et rageant, c'est qu'on a eu les chiffres de vente de l'Apple Watch via une étude, et il se révèle que l'Apple Watch est toujours la première smartwatch qui se vend le mieux. Apple, en plus, annonce une croissance à deux chiffres de plus de 20%. C'est le meilleur score dans le top 10, donc tout va bien pour eux. Les responsables de cette étude précisaient qu'il y avait deux ou trois... paramètres qui avaient poussé entre guillemets un renouvellement d'achat des montres connectées en 2025. Ils citaient que les connecteurs santé pouvaient faire plus de choses et il y avait aussi l'argument de l'intelligence artificielle. Et je pense que Apple, pour les années à venir, veut vraiment se positionner sur ces deux créneaux-là.
On va passer à un autre appareil qu'on aime beaucoup, mais pour lequel on a aussi pas mal de questions. C'est l'iPad. Qui fait face à une concurrence de plus en plus forte au sein même de l'écosystème Apple. Il y a maintenant le MacBook Neo, qui est dans la même gamme de prix que l'iPad Air. À 699 €, l'ordinateur portable coûte seulement 30 € de plus que l'iPad Air 11 pouces. Et il est même parfois moins cher grâce aux promotions. Alors on peut toujours dire oui, mais le Mac n'a pas d'écran tactile. Sauf que ça devrait arriver prochainement. Il y a des signaux dans macOS 27 qui vont dans le sens des rumeurs sur un MacBook à écran tactile. Et puis l'iPad risque aussi de se faire concurrencer par l'iPhone pliant, qui va être à la fois un smartphone et une petite tablette. Alors est-ce que tu penses que l'iPad est menacé par ces évolutions? Et si oui, quelle est sa planche de salut?
C'est difficile de répondre à ta question, car il y a beaucoup d'inconnus sur la prise en charge du tactile de macOS. Moi, j'ai une première question. Est-ce qu'il supportera l'Apple Pencil?
Ah, et, ben ça, c'est pas clair, ouais.
Et je sais pas comment... Enfin, le tactile, alors on l'a vu, il y a des éléments dans macOS 27 et ce genre de choses, mais... enfin, moi, je suis pas dessinateur, mais autant tu l'imagines faire des dessins et prendre des notes avec un iPad, autant le Mac, ça me paraît limité. Et j'ai très très peur, parce que déjà, enfin moi, j'ai un MacBook Pro dont je suis très satisfait, mais j'ai toujours peur de la charnière. Alors je sais que ça va être un nouveau design et qu'ils vont revoir les choses, mais ça reste à voir. Mais alors quoi qu'on en dise, tout d'abord il faut dire une chose, sur les trois premiers mois de l'année, l'iPad avait une croissance plus élevée que le Mac. Donc ah c'est oui. Quand même, donc il se porte quand même pas si mal. Mais c'est vrai que on a l'impression qu'on va dire que le champ... qui était exclusif à l'iPad, ne cesse de se réduire, parce que d'un côté, tu as le MacBook Pro qui va bientôt être tactile, tu as le MacBook Neo qui occupe, on va dire, des segments tarifaires qui étaient jusque-là réservés à l'iPad et qui va sans doute faire un carton dans le marché d'éducation. Et puis tu as cet iPhone Ultra qui aura un très très grand écran et les gens vont se dire « bon, j'ai acheté un iPhone à 2 000 €, bah, j'ai plus besoin d'un iPad parce que lorsqu'il est déplié, mon téléphone fait quasiment 7 pouces. Ou 7 pouces, plus de 7 pouces même. Donc voilà, on a l'impression que l'iPad est attaqué de toutes parts. Et j'ai un peu l'impression, alors on en parlait un petit peu à demi-mot avec l'Apple Watch, que la stratégie d'Apple du moment par rapport à l'iPad, c'est pas forcément l'invention logicielle ou l'innovation logicielle ou matérielle, c'est d'être agressif et de multiplier les promotions. Et c'est un peu le problème de cette année Snow Leopard, on va dire, c'est qu'il y a des produits qu'on le vend en poupe. C'est-à-dire que bon, sur l'iPhone, ne pas avoir un maximum de nouveautés, c'est pas problématique. Sur l'iPad, je sais pas, mais de manière générale, t'as vraiment l'impression qu'en 2026, bah, l'iPad, c'est un peu le parent pauvre de la gamme. Pas de grosses nouveautés sur le plan hardware. On espère un nouveau iPad mini, mais bon, quoi qu'on en dise, ça reste un modèle un peu confidentiel dans la gamme. Pas de véritable évolution au niveau logiciel.
Non, puis même au niveau logiciel, ce qu'on peut dire, c'est que j'avais fait un petit article sur la barre des menus, c'est que iPadOS se rapproche de macOS. Tu vois, t'as ce rapprochement-là entre les deux systèmes qui fait que l'iPad perd un peu de sa personnalité, en quelque sorte.
C'est ça, ouais. Alors, mais pour répondre à la question, moi, je pense qu'il y a... Pour l'iPad, je suis assez optimiste à moyen terme et un peu plus, parce que je pense que ce qui peut sauver l'iPad et vraiment lui permettre de franchir un nouveau palier, bah, c'est l'intelligence artificielle générative et plus généralement le vibe coding. On a fait des articles dans les années, enfin il y a une dizaine d'années, je travaille avec un iPad, c'est bien mais c'est pas bien, puis voilà, puis toutes les personnes finissaient par revenir sur leur Mac. Et en fait, le problème de toutes ces approches-là, c'est qu'on essayait de singer un environnement Mac sur un environnement d'iPad. Et finalement, là où le Mac se retrouve beaucoup plus polyvalent avec que l'iPad, c'est lorsque tu vas faire des tâches et tu vas utiliser, je sais pas, 5 ou 6 applications. Tu le vois, toi, dans ton contexte de rédacteur, d'un côté, tu as ton navigateur web, de l'autre côté, tu as ton éditeur d'image, de l'autre côté, tu as ton correcteur d'orthographe, ton éditeur de texte, ce genre de choses. Et je pense que l'iPad n'est jamais aussi efficace que lorsque tu as une application, enfin, une tâche que tu peux faire avec une seule application. Et je pense que justement, la grande force du vibe coding et de ce qui est en train d'arriver, c'est qu'on va pouvoir faire beaucoup plus facilement des applications sur mesure qui correspondent à une utilisation ou un utilisateur ou un groupe restreint d'utilisateurs. Et là, je pense que quand on arrivera à ça, on va vraiment débloquer le potentiel de la tablette d'Apple.
On termine le tour de l'actu avec une autre interrogation, cette fois concernant macOS. Lors du keynote de la WDC, Craig Federighi avait fait croire que macOS ne porterait pas de nom, avant que l'on découvre finalement l'appellation Golden Gate, mais on se demande si cette blague ne contient pas un fond de vérité. On a en effet remarqué que le nom de macOS était de moins en moins mis en avant par Apple depuis l'année dernière. C'est désormais le numéro de version qui est souligné, et c'est un changement qui s'inscrit dans l'harmonisation des numéros entre tous les systèmes et même avec les années. Alors, est-ce que tu crois qu'Apple va mettre fin à cette vieille tradition ?
Je sais pas, mais j'ai une petite idée à soumettre à Tim Cook. Je sais qu'il est un peu malheureux parce que les marges sont en train de baisser à cause de l'inflation sur les composants. Et je me demande si Apple pourrait pas reprendre un concept venu du foot et faire du naming. Tu vois, ça pourrait être un levier intéressant pour du marketing territorial. Là là. Ça, c'est quelques millions de dollars gagnés facilement par an, là, sans rien faire. Bon, par contre, on sait comment ça finirait. Hein, macOS appellerait une année sur deux macOS Qatar ou macOS Abu Dhabi. Et on risque d'avoir beaucoup de fonds d'écran avec le désert. C'est sympa d'ailleurs, ça fait de jolies images.
Moi, je pensais, quand tu parlais de naming, je pensais tout de suite à des marques genre iOS 28 McDonald's, tu vois. Non.
Ouais. Non, parce qu'il y a toujours ces histoires de géographie. Okay. Donc, on pourrait avoir macOS Mont Blanc, macOS Chamonix. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Moi, je suis un petit peu perdu avec les versions de macOS.
Ah bah
en plus,
oui,
ça change chaque année. Ouais. Et je sais que c'était une galère quand j'écris des articles. Franchement, tu me donnes un quiz à faire avec 5 versions de macOS avec leur nom et me dire
il faut les
mettre dans l'ordre chronologique. Je pense que je me plante. Donc, je pense que par exemple dans le support, c'est beaucoup plus malin de mettre un numéro de version qu'une appellation. Après, est-ce qu'ils vont vraiment arrêter ça ? Je sais pas bien. Je pense que ça les amuse un petit peu de trouver comme ça un nom, une édition. Ça, c'est la petite touche de macOS. Alors voilà, ils vont peut-être continuer à garder ça, mais effectivement, dans les faits, de plus en plus communiquer sur le numéro de version, c'est bien possible. Ouais.
Eh bien, merci pour ce retour sur l'actu, Christophe, et bon week-end.
Bon week-end à tous.
Bon week-end à tous, merci de votre fidélité. Et puis si vous appréciez Sortie de Veille, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify ou autre. Salut à tous, bon week-end.